Moi, j'aime beaucoup cette soirée de témoignage-là. Je serais curieuse, évidemment, c'est un peu curieux, mais moi, j'aimerais qu'on me raconte encore mieux comment la grâce peut s'exercer dans une famille. Parce qu'on est, je trouve, en tant que chrétien, en tant que couple chrétien, on a été, pour moi, à la recherche de servir Dieu avec toutes les modalités que l'Église peut nous proposer. Et puis, il y a des ratés, tout ça. Comment parler, comment voir les dégâts, les dépasser, et à la fois vouloir être un témoignage. Je trouve que la grâce qu'on s'applique à nous, c'est déjà bien, mais c'est un souci quand même de à la fois vouloir élever nos enfants dans le Seigneur et à la fois exercer la grâce, comprendre qu'il va y avoir des choses qui vont être ratées et que voilà tout ça. Et évidemment, vous avez traversé sûrement beaucoup de choses de ce genre. Est-ce qu'on peut raconter un peu plus ou est-ce que c'est pas le moment? Je sais pas.
Alors, nos ratés, ce serait trop long, il y en a beaucoup, mais il y a aussi tellement de réussites. Non, mais je trouve que c'est important, en tout cas peut-être pour justement parler de ce qu'on a vécu, c'est qu'on a été longtemps impacté par des témoignages qui, sur le coup, nous faisaient un bien fou, mais où c'était des témoignages de réussite. Et ça nous faisait du bien et ça nous nourrissait, mais on se disait, alors nous, pourquoi nous, on n'y arrive pas? Pourquoi? Et on a découvert autour de nous des gens qui ont su nous dire qu'ils avaient raté des choses et que ce n'est pas parce qu'ils les avaient ratées qu'ils étaient en échec dans leur relation avec Dieu. Alors, je vais vous refaire une petite confidence puisqu'on est entre nous. Mes parents ont servi le Seigneur et nous ont transmis la foi. Tous leurs enfants sont dans le Seigneur. Servent Dieu, beaucoup de leurs petits-enfants. Et mes parents ont divorcé, ils avaient 70 ans, après avoir servi Dieu comme pasteur. Il y avait des choses qu'ils n'avaient pas réglées. Hein. J'ai parlé de ce qui avait impacté leur couple. Je crois qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas réglées de leur passé et qui ont impacté leur couple. Et donc, ils ont raté quelque chose qui fait que malgré tout leur amour, et j'avais des parents qui s'aimaient énormément, ils ont raté quelque chose dans ce qu'ils auraient peut-être dû régler. Alors je dis qu'ils auraient peut-être dû régler, parce que ça c'est après coup, et qu'ils n'ont pas pu, et ce qui fait un peu éloignés du service, les enfants ont grandi et quitté la maison, il y a quelque chose dans la communication qui a fait que ça s'est emballé et qu'ils en sont arrivés à se séparer. Et notamment, je crois que l'histoire de l'inceste dans leur maison avait laissé des traces d'une forme de non-confiance totale, alors que papa n'a jamais eu le moindre geste, le moindre regard déplacé, et n'était pas du tout. C'était entretenu comme ça dans la tête, dans l'histoire. Hein. Mais quand mes parents ont divorcé, imaginez, nous, ils avaient fondé l'église, on était pasteurs dans l'église. Et notre première réaction, alors au-delà de la peine, de l'accompagnement, de voilà, tout ce qui se passe dans le secret, c'était, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire à l'église? Alors l'église n'était pas dupe. Enfin, pas dupe. En tout cas, ils savaient que mes parents étaient un couple un peu tumultueux, volcanique, mais qui servait tellement Dieu, qui avait tellement tout donné. Et nous, notre préoccupation, c'était qu'est-ce qu'on va dire à l'Église? Hein, avec Christian, on est arrivé. Alors, au départ, c'était à nos enfants et à nos petits-enfants. Puis après, c'était à l'Église. Et quelque part, avec nos enfants et nos petits-enfants, en se disant, on va s'en débrouiller. Mais l'Église, hein, c'est sacré, l'Église. Et comme on est en Église et que j'aime bien la transparence, c'est ce qui nous a donné le plus mal à la tête, quoi. Et puis, on s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi c'est si difficile de le dire à l'Église? Parce qu'ils ont raté? Qu'est-ce qu'ils ont raté? Et puis après, on a prié, on a travaillé ça, puis on s'est dit, si on ne peut pas le dire à l'Église comme quelque chose qui va nous enseigner, qu'est-ce qu'on va leur dire à eux pour pas qu'au moins ils ratent la marche de l'entrée dans le ciel? Parce que c'était notre préoccupation après tout ce qu'on avait vécu avec eux, c'était Seigneur, mais surtout qu'ils ne t'abandonnent pas. Surtout qu'ils reçoivent ton pardon, ta grâce, qu'ils comprennent un peu quelque chose de ce qu'ils ont vécu. Et en faisant chemin, c'est-à-dire en se disant, il faut qu'on puisse dire à papa, maman, on est tellement triste, c'est terrible, c'est... on a réglé nos comptes hein, en famille, notre petit linge sale. Mais surtout, la plus belle chose que vous nous avez transmise, c'est la foi. Si ça, ça demeure, c'est que c'était vrai. Si ça, ça ne demeure pas, ça veut dire que vous nous avez menti ? Bon, moi, je suis toujours un peu provocatrice. Hein, donc, avec mon papa, là, j'ai... Et on savait qu'ils n'avaient pas trahi leur relation avec Dieu. Et on savait que leur foi était réelle. Et ça nous a donné du courage pour dire à l'Église, ben oui, on peut rater des choses. Et il faut pouvoir le dire. On peut rater des choses avec ses enfants. On peut rater des choses en couple. On peut vivre le miracle et on peut se réconcilier. On a vécu des crises avec Christian dans notre couple. Et on a réussi à traverser ces tempêtes et à se réconcilier et à tenir bon. On a traversé des crises avec mes enfants. Vous savez, ces moments où notre fille de 15 ans qui dit « je vais rejoindre mon petit copain ». J'ai dit « non, tu ne le rejoindras pas ». « si, j'y vais ». Et puis elle met son sac à dos. Et puis elle dit « de toute façon, sinon je fugue et je ne rentre pas ben ». Vous les vivez, ces moments. Et tu fais quoi ? Et tu dis quoi ? Et tu as l'impression que tu as tout raté. Alors en plus, tu t'occupes des gamins des autres. Ça marche mieux avec eux. Mais dans toutes ces histoires-là, on a appris que rater quelque chose, c'était, j'ai envie de dire, c'est normal. C'est être chrétien aussi de rater des choses. Moi, je crois à la guérison divine. Ben, j'ai raté un truc, hein. Je ne suis pas guérie, mais je prie quand même pour les malades. Mes parents ont prêché sur la force de l'unité de coup, sur le pardon, ben, ils ont raté un truc. Ça n'a pas fait d'eux des mauvais chrétiens. Je crois que c'est important qu'en Église, on puisse aussi parler de ce qu'on peut rater. Bah, puis regardez les textes bibliques. Hein. Je ne vais pas citer David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je ne veux pas banaliser le péché. Je ne veux pas banaliser les ratés, les échecs. Je crois qu'on peut mettre le mot échec, le mot raté, le mot « je ne me le pardonnerai jamais ». Je me rappelle un jour, mon papa me disait « Dieu m'a pardonné, moi je ne me le pardonnerai jamais ». Je lui dis « Heureusement que tu ne te le pardonneras jamais, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut te pardonner ça ». Et puis après, on a éclaté de rire et on a avancé sur chemin. Mais je crois qu'on ne peut pas continuer à prêcher une église belle, des chrétiens parfaits. La sanctification, on est en chemin, on avance, puis on fait ce qu'on peut. Et puis heureusement qu'il y a le miracle. Heureusement qu'il y a des pardons dans un couple. Heureusement qu'il y a des pardons entre parents et enfants. Heureusement qu'il y a des restaurations complètes. Mais on ne peut pas prêcher que ça. On ne peut pas prêcher que la guérison divine, que les couples restaurés, que les enfants qui se convertissent, qui se font baptiser à 16 et 18 ans. Et celui qui, comme le brigand, se convertira au moment où il donnera son dernier souffle, est-ce qu'il a moins de valeur ? Alors oui, moi, je bouscule un peu les choses parce que je crois qu'on a aussi enfermé des gens dans une forme de culpabilité. Alors que quand on sort de la culpabilité, il y a un chemin qui s'ouvre. Il y a un chemin qui s'ouvre. Ma maman est décédée dans le Seigneur, mon papa est encore vivant. Il nous a fait une petite vidéo il y a 2 ans. Il a demandé pardon à l'Église. Il nous a demandé pardon. Il a réglé ce qu'il avait à régler avec le Seigneur. Et ben oui, c'est terrible. Il a raté. Il a raté ben 20 dernières années de sa vie qu'il a passées sans maman. Mais il la retrouvera au ciel. Moi, je crois qu'on a besoin aussi de ces témoignages. Parce que l'important, c'est notre relation avec Dieu et c'est comment Dieu transforme nos cœurs au cœur de l'épreuve. Après, on banalise pas. Après, on sait aussi dans notre face-à-face avec Dieu, comme Zachée, ce qu'il faut qu'on restitue. Pas forcément des euros. Parfois, c'est des pardons. Parfois c'est plein de choses à faire, hein, en termes de gestes d'amour, de gestes de témoignage, de notre changement de regard. Mais la grâce, elle est pour le coupable. Et on est coupable j'allais dire tous les soirs quand on se couche, alors j'allais dire tous les matins quand on se lève, on confie nos rêves au Seigneur. Mais en tout cas, voilà, je crois qu'on peut être encouragé aussi en disant « Seigneur, je suis un vase entre tes mains, mais le vase, il est fait d'argile, il est fragile et parfois il tombe et il se brise. » Et avec le Seigneur, ce qui est beau, c'est que ce n'est pas que les vases fêlés dont il se sert, c'est les vases brisés qu'il va reconstruire et qu'il va restaurer. Et je crois que même avec ce qu'on a raté avec nos enfants, hein, combien on a des cœurs à cœur avec nos enfants et nos petits-enfants encore aujourd'hui, les moments les plus difficiles dans nos vies, où on a eu le plus mauvais témoignage avec eux. Parce que dans les familles chrétiennes, les mômes, même la porte fermée, hein, ils entendent. Ils entendent vos discours quand vous sortez du culte et vous faites le compte-rendu dans les familles pastorales. Médisance, c'est dire la vérité. Mais ça ne fait pas du bien. Donc, mais Dieu travaille avec ça. Dieu travaille avec l'être humain. Il nous a voulu humain, il ne nous a pas voulu Dieu. Et avec ça, il transforme nos vies. Et avec ça, il touche même ceux qu'on a blessés par nos contre-témoignages. C'était le mot qu'on disait.
The next question for Joël.
Merci Françoise. Je sais qu'une des choses qui est frappante, je connais votre famille, je connais tes parents, j'ai un regard sur la famille. Ce qui me frappe, c'est cette dimension de la transmission. Et je sais que c'est quelque chose qui est encore très important. La famille comme lieu de transmission. Vous avez su transmettre ça, en tout cas en partie, je pense, à vos enfants, à vos petits-enfants. Plusieurs sont des enfants, des petits-enfants sont enseignants et ont envie de transmettre aussi à d'autres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette dimension-là, de la transmission, la famille comme lieu de transmission? Comment vous l'avez vécu?
Alors, c'est important parce que je crois que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a quasiment, construit. C'est-à-dire, c'était une évidence pour nous que ce qu'on était, vase fragile, personne imparfaite, ne devait pas nous empêcher de transmettre ce qu'on avait reçu de Dieu, de transmettre qui il était et en quoi la connaissance de Dieu donnait du sens à la vie et en quoi la vie même était, substance divine, qu'il y avait quelque chose. Et donc, c'est quelque chose que nos parents nous ont inculqué. Mais Christian a reçu la même chose dans une famille catholique pratiquante, hein, puisqu'il était catholique quand je l'ai connu. Et il y a quelque chose, d'ailleurs, du coup, qui d'emblée a matché à ce niveau-là. C'est que c'était une évidence que aussi important était l'éducation des enfants pour vivre dans une société, apprendre à lire, à écrire, apprendre un métier, était tout aussi important, alors je vais dire tout aussi important, mais avec une dimension divine, donc je dis tout aussi parce que ça, le spirituel peut pas être déconnecté du reste, quoi, hein. Si l'homme ne mange pas de pain seulement, il lui faut aussi du pain. Et c'est pareil pour la transmission de la foi, quoi. Pas que la foi. Ils ont besoin aussi de l'art, de la culture. C'est pour ça qu'on a aussi des enfants enseignants dans les écoles chrétiennes, il faut le tout. Mais c'est vraiment quelque chose qui s'est attaché à nous et on voit le fruit quand c'est bien compris. Transmettre, pas que les valeurs que l'on vit, mais transmettre aussi qui est Dieu et cette, le fait que ça fait partie de notre nourriture quotidienne. Et ça passe aussi par une dimension, j'ai envie de dire, quasiment rituelle à la maison. ça fait partie de notre vie, au même titre qu'il y a, voilà, il y a les repas, il y a les temps spirituels, il y a une atmosphère spirituelle, et avec toujours cette conscience que la vie spirituelle dans la maison ne fait pas de la maison une maison de saints ou une maison sainte, mais des chrétiens qui ont envie de plaire à Dieu et qui veulent absolument, mais on l'a fait pour nos enfants, mais pour les enfants accueillis, hein, transmettre ce qu'est Dieu et en quoi ils peuvent toujours s'adresser à lui et compter sur lui avec la liberté du choix. Et puis après, l'autre dimension, c'est le lien à l'Église et à la communauté des croyants au sens large du terme. Et je crois que la transmission passe aussi par l'effort que l'on a fait, en tout cas je parle là de notre témoignage, puis de ce qu'on essaye de transmettre autour de nous, par l'effort que l'on a fait que nos enfants baignent aussi dans une culture chrétienne. Alors peut-être que ça, on en parle moins, mais je pense que ça compte aussi. Les enfants baignent dans une culture, le scoutisme, l'école du dimanche, les activités parallèles à l'église. Une église a besoin, je crois, de développer toute cette dimension aussi d'un culturel imprégné de cette dimension spirituelle. Ça veut dire que nos enfants ne grandissent pas dans la société, dans le mode dans lequel on est. Mais il doit y avoir aussi c'est des plantes, et plus le terreau est bon et plus la plante se développe en lien avec ce terreau, après ils feront des choix, mais la transmission passe par la maison, par l'église et par la vie culturelle chrétienne, j'allais dire au maximum. Après je sais pas, je crois que Dieu a fait le reste. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel on est attaché pour nous, dans notre famille, dans notre église, avec aussi tout l'impact, on en parlera demain matin à l'école La Cévenole, avec, je crois, tout l'impact chez le jeune enfant en lien avec l'éducation chrétienne au sens large du terme. L'enfant doit apprendre à connaître sa Bible, on lui apprend l'histoire et la géographie, on doit aussi lui apprendre à connaître la Bible. Alors, il y a la Bible en tant que livre, et parfois on dit, ah oui, mais non, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas un livre. Mais je crois que l'enfant a besoin de la connaître sous les deux angles. L'histoire biblique, on est dans un monde déchristianisé. Connaître sa Bible aussi comme un livre, ça reste aussi dans le cœur de l'enfant quand il grandit, quand il n'en veut pas le sens, hein, quand il ne veut pas connaître l'auteur de la Bible, il en connaît le livre et il ira chercher l'auteur en son temps. Et puis après, tout ce qui va être fait, je crois que pour l'enfant, et on n'en fait jamais trop pour l'enfant. Je crois qu'aujourd'hui, l'enfant n'a plus la première place dans notre société. C'est un enfant un peu objet. On le confie un peu tout le monde. Et moi, j'ai envie de plaider aussi pour que l'Église réinvestisse le champ de l'enfance comme un champ missionnaire, pour aussi semer dans le cœur de l'enfant, ce qui est bon, ce qui est juste. Oui, je suis une fervente adepte des champs missionnaires dans l'éducation chrétienne par le biais des écoles chrétiennes qui ne sont ni des cocons, ni des lieux de refuge, parce que je vous assure que les gamins, de toute façon, soient les nôtres, enfants de chrétiens ou ceux qu'on accueille dans nos écoles qui ne le sont pas, à la récré, ne faites pas la différence avec une cour de récré classique. Ce qui va être différent, c'est ce qu'on sème dans leur cœur. C'est comment on les prépare. Comment on les prépare et comment on développe leur esprit critique. Juste en lien avec ça, je crois qu'on est dans des nouvelles décennies qui ont changé aussi le visage de l'école, et que si l'école développait l'esprit critique il y a des décennies, aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué, hein. Je ne dis pas que c'est impossible, et il nous faut des enseignants dans le public, il faut des gens qui prient pour les enfants dans le public. Mais je crois qu'aussi, on a besoin de construire des paniers comme pour Moïse, pour pas qu'on les jette directement dans le Nil en se disant qu'ils vont apprendre à nager, parce que c'est comme ça, hein, et que Dieu les gardera dans le Nil. Je crois qu'on a besoin de construire des écoles pour veiller sur eux. Puis après, ben, y a la princesse, la fille du pharaon, il y a tout ça. Moïse a été élevé avec la communauté éducative au sens large du terme. Et il avait besoin aussi de la communauté éducative de l'Égypte. Mais il avait besoin aussi des siens. Hein, et je trouve que c'est extraordinaire comme enseignement. Et je pense qu'il faut qu'on réinvestisse aussi tout ce qui est en lien avec les activités culturelles, l'instruction, l'éducation auprès de nos enfants pour mieux transmettre la foi aujourd'hui. Il faut qu'on s'adapte aussi au temps dans lequel on est.
Merci beaucoup. Je crois que nous pouvons encore remercier Françoise. J'ai vu la main d'Aldo, je vais te donner la parole. Et après t'avoir donné la parole, Françoise répondra à ta question. Et avant de nous séparer, j'aimerais qu'on prenne quelques instants dans la prière, parce que beaucoup de sujets ont été soulevés.
Oui, bonsoir. Moi, ma question, c'est sur notre dernier enfant qui nous reproche de l'avoir amené à l'église jusqu'à 18 ans. Et moi, ce qui m'impacte, c'est est-ce que je dois lui demander pardon de l'avoir obligé à venir à l'église jusqu'à 18 ans, quoi. C'est une question qui me turlupine, quoi.
Une question du cœur. Donc.
Ah, ces questions, on les a tous. Hein. Puis, plus on a d'enfants dans nos quatre enfants, hein, il y en a qui ont souffert hein, parce qu'on les a obligés. Puis on a nos petits-enfants maintenant qui nous disent « Mais mamie, les temps ont changé. » Je crois que les échanges, les discussions sont importantes. Vous auriez été footballeur, vous l'auriez emmené sur les stades de foot et il aurait peut-être détesté le foot. Et puis vous lui auriez dit, alors nous c'est souvent les réponses qu'on a fait à nos enfants, c'est... vous avez vécu dans notre famille et vivre en famille, c'est vivre aussi ce que la famille vit et puis les enfants mineurs, ce que les parents vivent. Et bien sûr, il y a des choses qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, mais c'est comme ça. Donc je crois que c'est pas leur demander pardon, c'est en tout cas peut-être de pas avoir su mettre les bons mots au bon moment pour écouter le pourquoi c'était si difficile de venir à l'église. Je crois qu'il y a des moments où le cœur à cœur, et il y a un temps où on peut le faire. En tout cas, si les reproches perdurent, le cœur à cœur décalé un peu, c'est-à-dire demander pardon pour les avoir emmenés à l'église. Moi, j'encourage les parents à emmener les enfants à l'église. Hein. Je me suis battue avec l'aide sociale à l'enfance pour avoir l'autorisation d'emmener même mes ados, même mes sortants de prison à l'église. Hein. On n'a pas lâché. Et on a toujours argumenté le fait qu'il y a des obligations dans la vie. Le gamin qui n'aime pas l'école et qui a 18 ans vous reprochera de l'avoir obligé à l'école. Vous ne demanderez pas pardon de l'avoir obligé à aller à l'école. Mais c'est important de mettre des mots. Qu'est-ce qui a été si difficile? Pourquoi? J'ai peut-être été maladroit. En tout cas, je crois que l'échange de cœur à cœur, alors surtout quand ils ont plus de 18 ans après, j'ai quasiment d'homme à homme, de femme à femme, c'est se décaler un tout petit peu pour essayer de mettre des mots et puis on se rend compte qu'au fond, au bout d'un moment, c'est pas l'obligation d'aller à l'église, c'est des choses qui ont été plus difficiles, des maladresses dans nos obligations le jour où on est plus fatigué. En tout cas, je pense qu'il faut pas laisser des choses comme ça sans essayer d'en faire quelque chose par un échange qui ne soit pas forcément de l'ordre de la demande de pardon, parce que ce n'est pas forcément nécessaire. Mais en tout cas, j'entends que ça a été difficile pour toi. J'entends que tu n'aimais pas ça. Pour nous, c'était important. Comment on peut aujourd'hui t'aider à... Tu n'en es pas qu'un mauvais souvenir. Voilà, peut-être un peu. Cette parole, cet aller-retour, cette écoute qui fait que ça désamorce. Vraiment des petites bombes hein, qui répètent comme ça régulièrement et qui font qu'on a l'impression que on a raté la transmission de la foi uniquement parce que la graine n'a pas encore poussé. Il faut l'arroser.
Encore merci beaucoup, Françoise, de nous avoir apporté le partage de ton expérience de vie avec également Christian. Dans ton livre « La famille chevillée au cœur », tu termines avant ton épilogue par un chapitre, c'est le numéro 21, et je dis ça pour que vous puissiez le lire, qui est intitulé « Tout commence à la maison ». Et tu as commencé toi-même à nous parler de la famille dans tous ses états, en commençant par votre maison, et en parlant de ce qui s'est passé dans les maisons. Et ça m'a beaucoup encouragé de lire ce chapitre-là, et de voir aussi ce texte de Deutéronome 11 que je voudrais nous lire, puisqu'il fait écho à la dernière question à la fois de Joël et aussi à la question de notre frère Aldo autour de la transmission. Tout commence à la maison, et en prélude, Deutéronome 11, 18 à 20. Vous imprimerez dans votre cœur et dans votre âme les commandements que je vous donne, pour ne pas les oublier. Vous les attacherez sur votre bras et sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants. Vous leur en parlerez quand vous serez assis chez vous ou quand vous marcherez le long d'une route, quand vous vous coucherez ou quand vous vous lèverez. Vous les écrirez sur les montants de portes de vos maisons et sur les portes de vos villes. Tu nous as proposé la foi, l'amour et l'espérance. Et nous allons retourner à nos maisons maintenant, et je ne voulais pas qu'on retourne sans la prière, parce que tout ce qui a été partagé avec un souffle d'espérance, pour que dans nos maisons où la famille se vit dans tous ses états, dans nos maisons peut-être avec nos ratés, avec notre culpabilité, avec peut-être tout ce qui s'est vécu, que nous puissions maintenant, avant de partir, accueillir l'espérance que tu nous as proposée autour des ressources du pardon, des ressources de la foi, de l'amour, et de confier ça au Seigneur ensemble dans la prière, et de revenir encore demain à la Cévenole pour être au bénéfice de ce qui sera partagé pour celles et ceux qui le peuvent. Ici aussi, demain, entre 15h et 18h, pour avoir des temps encore d'étayage, de soutien autour de toi, autour de Christian. Il y aura des moments communs, mais il y aura aussi des moments de père, grand-père autour de Christian, d'homme, de mère, solo, mère en couple, grand-mère autour de Françoise, pour prolonger dans ce partage de vie, dans ces passerelles de transmission. Voilà, donc ce que je nous propose maintenant, simplement, que nous puissions prier quelques-uns, sentez-vous libres. Nous avons entendu nos ratés, nous avons entendu des réussites, nous avons entendu de l'encouragement, de dire que c'est ça la famille, soyons libérés d'une culpabilité d'une famille idéalisée. Dieu a voulu la famille et elle est traversée par différentes réalités, mais entre l'idéal et le réel, nous avons été encouragés à être en chemin, comme les disciples d'Emmaüs, et le Christ espérant contre toute espérance en nous, par son esprit, nous accompagner maintenant à repartir avec des cœurs remplis d'espérance. Je propose à quelques-uns parmi nous de se sentir vraiment libres de prier, et je conclurai ce temps de prière.